Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de La Rage du Peuple. Salut Jean-Martin et salut Jawad.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, ça risque d'être notre dernière émission à trois pour ce qui est du moment, je crois.
Pour ce qui est au moins de cette saison-ci, la saison d'été. Ouais, je m'en vais à Montréal bientôt, donc je vais quitter La Rage du Peuple. Sûrement à l'automne, il y aura encore Guillaume et Jean-Martin qui vont pouvoir vous accompagner pour faire le suivi des actualités sociopolitiques et vous donner un petit point de vue libertaire, ce qu'on voit assez rarement
dans les médias. Puis on va inviter plus ouvertement les mondes, le monde pas nécessairement membre du collectif à venir participer.
Oui, bien sûr. N'importe qui est intéressé, ça nous fait toujours plaisir.
Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a cette semaine à l'émission, Guillaume?
Aujourd'hui, on va bien sûr faire la couverture de l'actualité, puis ensuite, on va y aller d'une entrevue avec des gens qui organisent le campement Togéré qui a lieu dans le coin de Lévis.
Oui, ça va être fort probablement Santiago. On va faire une entrevue. Je vais les rappeler. J'espère qu'avec leur cellulaire, ça va bien marcher. Mais aux alentours de 16h45, on va avoir une entrevue avec eux autres. Parler du principe du campement autogéré, puisque c'est le 6e cette année. Donc, on va parler le plus possible de la naissance, de la forme d'organisation, des principes qui fondent cette organisation-là. Et aussi, c'est quoi l'importance de faire des campements autogérés. Dans la deuxième partie de 15 minutes, on va essayer de parler le plus possible des luttes contre Abascal. Donc, hier, par exemple, ils sont allés devant le bureau de la municipalité de Lévis, exprimer leur opposition au projet Rabaska qui menace, en fait, une bonne centaine de résidences, tandis que des constructions comme ça en France sont dans des endroits industriels qui sont cotés à danger élevé. Et dans la situation présentement, là, cet été, là, on a eu plein d'arguments, comme par exemple des explosions des explosions à Toronto dans un port méthanier. Aussi, en février 2008, il y a eu un méthanier au large de Cape Cod qui a dérivé parce qu'il était en panne. Puis dans les explosions à Toronto, bien, il y a eu un pompier qui est mort. Voilà, ben on va parler de ça avec eux, ce qu'ils en pensent. C'est quoi les moyens qu'ils entrevoient pour lutter contre le projet Rabaska. Donc, on s'en va écouter quoi, Jawad?
On s'en va écouter la compagnie Joli Môme avec la musique « Tout allait bien ».
Mesdames, messieurs, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, le 10 septembre 2001, et je dis bien le tout.
Est-ce que tu nous entends, Olivier?
Oui, je vous entends.
OK, ça marche. Donc, Olivier, toi, tu vas nous parler pour les 15 prochaines minutes environ de l'historique du campement autogéré. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Oui, vraiment. En fait, je peux commencer peut-être avec les origines du campement autogéré, qui était avant appelé le campement de la jeunesse du Québec. Ça avait commencé, en fait, avec les forums économiques de Davos qui avaient lieu en Europe à tous les années, auxquels tous les leaders, en parenthèse économique, étaient conviés, ainsi que les politiciens, pour un peu décider sur l'avenir de la planète. Les organismes non communautaires et plus les organisations syndicales se sentent un petit peu rejetés de cette organisation-là, puis ont décidé de créer en 2001 le premier forum social mondial au Brésil, à Porto Alegre. Puis c'est un peu là qu'est né le premier campement de la jeunesse, international de la jeunesse. Le forum social regroupait la première année quelques milliers de personnes. Dès le départ, il y a des personnes, et non pas nécessairement des représentants d'organismes, des représentants des syndicats qui se sentaient rejetés, ou bien pas rejetés, mais qui ne se sentaient pas nécessairement interpellés ou je sentais qu'il y avait un vide dans comment se passait le forum. Donc, c'était des ateliers, mais très peu de mise en pratique. C'était souvent, on retournait chacun dans son pays, puis sans vraiment de suite. Puis, les gens, c'était plutôt des jeunes, donc, ont décidé de former, dans le fond, un camp où on mettrait en pratique toutes les belles, tout ce qu'on amenait, dans le fond, à ce forum social-là, donc toutes les pratiques d'autogestion, les pratiques d'horizontalité, de justice sociale, d'écologie. Donc, c'est un petit peu là qu'est né le premier campement international de la jeunesse. Puis en 2003, je pense que c'est ça, en fait, j'étais pas vraiment présent, mais de mémoire, là, il y a des gens beaucoup de Québécois qui sont allés au forum social, mais qui ont assisté au campement international de jeunesse, encore une fois, pour toi, Aigri, puis qui ont beaucoup apprécié l'expérience. C'est en 2002. Puis en 2003, ils ont ramené l'idée du campement au Québec, puis ont décidé de créer le premier campement québécois de la jeunesse à Saint-Malachie, dans Bellechasse.
OK.
Donc, c'est un petit peu là qui. C'est un petit peu les origines du campement. Donc, il vient un peu d'un autre continent.
OK.
Pas mal, ça.
Puis, le campement autogéré, il a changé de nom avant. C'était le campement de la jeunesse. Je pense que vous avez décidé de l'appeler autogéré parce que c'était plus représentatif de ce que c'était, donc, un campement dans lequel les gens pouvaient vivre l'autogestion. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'application du principe d'autogestion dans le campement et les raisons qui pourraient pousser des gens à vouloir vivre cette expérience-là?
Ben oui, en fait, c'est ça, le campement, comme tu dis, a changé de nom parce que la jeunesse, c'est beau, mais en fait, c'était pas nécessairement juste des jeunes qui participaient au campement, c'était aussi des personnes, peut-être on pourrait plus dire jeunes d'esprit ou vifs ou qui avaient un peu un esprit solidaire, puis aussi avec une base, une certaine base autonome, libertaire, donc l'autogestion, comme on le sait, vient de plus la pensée libertaire. Puis l'autogestion dans le campement, comment ça se traduit? C'est par un. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de protocole. Il n'y a pas de chef. Moi, en fait, tu m'as dit que j'étais un représentant du campement tantôt. Je suis pas vraiment représentant. J'ai comme été plus délégué pour l'entrevue, mais en même temps, on n'est pas une organisation avec une idée qui est fixe, là. Donc on change, on évolue avec le temps. Puis l'autogestion, disons, dans une journée typique, on va commencer, la première chose qu'on va faire le matin, après avoir déjeuné, souvent, c'est se rencontrer, faire une assemblée générale où on va discuter du fonctionnement de la journée. On a un certain fonctionnement qui permet une rotation des tâches. Donc, c'est pas tous les gens qui vont se spécialiser à certaines tâches, disons, à plus donc la bouffe, les infrastructures, la santé et la salubrité, tout le comité disons, plus média qui va s'occuper de répondre aux courriels. Donc, il y a une rotation. Donc là, il y a personne qui va monopoliser la connaissance. Donc, la connaissance circule. Puis ça, on essaie, dans le fond, de tous partir sur une base égalitaire. C'est un petit peu ça le principe de rotation de tâches. Donc, tout le monde est capable de le faire. Il suffit juste de savoir comment.
Oui, ça donne un bon argument à la rotation des tâches parce que les gens qui veulent en apprendre plus peuvent aller vivre l'expérience pour voir que c'est pas avec un manque d'efficacité que se fait la rotation des tâches parce qu'il y a des déjeuners tous les matins qui sont très bons, puis on fait juste partager les recettes, puis on partage toute l'expérience, dans le fond, est plus humaine que machinale, c'est ça?
Exactement. Tu l'as dit, on dirait que t'es déjà venu, en fait.
Oui, ben je suis...
À le raconter comme ça.
Ben oui, je suis déjà venu, puis j'ai l'intention d'y aller si je peux, si je me trouve un lift. Y a-tu des lifts qui partent de Montréal, puis de Sherbrooke ou de Québec pour y aller?
Ben en fait, oui, s'il y a des gens qui sont intéressés à passer au campement, qui n'ont pas nécessairement de voiture, ou même s'ils ont une voiture, on les invite à aller sur le site uncampement.net, sans espace, un campement, là. Puis il y a un babillard de covoiturage, donc les gens peuvent proposer des lifts ou demander des lifts aussi. Donc je pourrais inviter les gens à aller là. Ça, c'est un petit peu notre système là, de covoiturage qu'on a installé depuis 2 ans.
OK. OK. On va faire une courte pause. C'est simplement qu'au lieu de commencer à E45, on a commencé à E50 à peu près, mais on va continuer quand même pour voir s'il y a quelque chose d'autre à expliquer au niveau du mode de vie autogéré. Puis après ça, on va continuer avec la deuxième personne qui va nous parler plus de l'opposition du campement autogéré par rapport à Rabaska.
Donc, exact. Parfait.
À tout de suite.
À tantôt.
On vient d'entendre Not a Crime de Gogol Bordello du Gypsy Punks du groupe de l'album Underdog World Strike. Ça ressemble globalement à ça. C'est très amusant. Nous sommes toujours en onde avec Olivier qui a été mandaté pour parler du campement autogéré. On l'a dit tantôt, Olivier n'est pas un représentant, mais une personne qui s'est portée volontaire pour en parler. J'allais te poser la question. Olivier, tu m'entends? Olivier?
Oui, je t'entends.
OK, ouais, c'était pas ma question, mais c'était une question aussi. Donc, ma question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la typique assemblée et combien de personnes y participent en général?
Ben, je dirais qu'en général, c'est environ 80-90% des gens présents qui vont participer à l'assemblée. Ça se fait le matin. On commence souvent par décider en fait qui animera l'assemblée, qui facilitera l'assemblée tout en prenant des tours de parole. Prendre les notes s'il y a lieu. C'est une assemblée qui est disons spéciale. Aussi, quelque chose de particulier au campement, c'est qu'on nomme des personnes qui vont garder le senti durant l'assemblée. Donc, ces personnes-là vont jouer le rôle un peu de voir un peu
si
de résoudre
tendu.
Les tensions avant qu'ils créent vraiment des chicanes. D'essayer aussi, si c'est lourd, si l'ambiance est lourde, de prendre un petit moment, de suggérer un moment de pause pour se défouler, se lever debout, bouger un peu. Donc, parce que comme on sait, souvent des assemblées générales peuvent être assez difficiles, tout dépendant de quels sont les sujets qui sont traités. Donc, c'est ça, il va y avoir environ ces 4 personnes, là, qui vont, 3 ou 4 personnes qui vont faciliter l'assemblée. Puis, on va traiter souvent de la poutine, comme on dit, là, mais c'est en fait vraiment de tout ce qui va se dérouler dans la journée. Donc, il y a souvent, on nomme des antennes qui sont un petit peu ceux qui vont relayer l'information de chaque comité. Donc, on pourrait parler du comité bouffe, le comité infrastructure, le comité plus santé et salubrité qui va s'occuper des toilettes, des douches, le comité mobilisation s'il y a lieu, le comité médias, communication aussi. Donc,
ça, il y a des rotations au sein de ces comités-là aussi?
Exactement. C'est à ce moment-là qu'on va faire la rotation des antennes, donc des personnes qui vont transmettre l'information dans le comité. Puis souvent, donc c'est ça, après avoir fait ça, on va... souvent l'assemblée va être terminée, mais la particularité cette année, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans une lutte contre Rabaska. Donc là, souvent, on va aussi parler d'action, de manière de rejoindre les gens, donc c'est un petit peu tout. Là, ça change d'une assemblée à l'autre. Là, cette année, c'est assez particulier parce qu'on s'inscrit dans une lutte, ce qu'on faisait pas nécessairement, ce qu'on n'a pas nécessairement fait les 4 années au précédent.
Oui. Bien, avant qu'on commence à parler de Rabaska, je suppose que les participants puis les participantes qui organisent d'année en année entre 2 campements, l'établissement d'un campement avait à cœur la cause environnementale de lutte contre Rabaska. Est-ce que tu peux me cerner d'autres valeurs qui motivent les gens qui participent souvent pour concrétiser le campement en dehors de l'autogestion? Puis est-ce qu'il y a d'autres tendances de valeurs que libertaires, un peu comme on parlait tantôt?
C'est sûr que le campement est un lieu qui se veut ouvert à tous et toutes, quel que soit l'âge, le genre, la culture, l'origine sociale, l'orientation sexuelle. Donc, on est plutôt anti-oppressif de ce côté-là. Donc, on ne tolère aucune forme de violence, ou d'abus physique, psychologique ou verbal là, sur les personnes. Puis, si on parle des valeurs concrètes,